dass er die Seinen heimholen wird.
De ce qu'il reviendra prendre les siens.
Er hat's verheißen.
Il l'a promis.
Er wird es tun.
Il le fera.
Er sagte, ich gehe hin,
il disait, je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Ça, c'était et c'est et ça demeure l'espérance vivante et bénie de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et ils ne seront pas confus. Aucun, personne qui fait confiance à Dieu sera confus. Personne. Beaucoup qui eux-mêmes voulaient créer leur salut, qui ont fait confiance à leur propre force, qu'ils soient confus. Mais tous ceux qui font confiance au Seigneur, qui mettent leur foi dans Golgotha et qui ont saisi Golgotha dans sa signification divine et qui ont dans la foi revendiqué le salut accompli pour eux, ils ne seront pas confus, mais ils verront la face de Dieu. Mais bien-aimés, nous vivons dans un temps dans lequel le peuple de Dieu s'examine et nous regardons en arrière à ce que Dieu a fait dans notre vie, a pu faire dans notre vie, a pu faire par notre vie. Et je demande à notre bien-aimé frère Marco Fori de m'excuser. Mais il disait hier dans un entretien, je regarde à ma vie en arrière et je me demande qu'est-ce que Dieu, pendant ce temps, dans ma vie et par moi, a pu faire. Et nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié et nous avons pleuré ensemble. Et nous avons dit, ô Seigneur, ce qui est derrière nous est déjà passé. Nous ne pouvons plus rien changer, mais le temps qui est devant nous, qui nous est encore accordé, qu'il te soit consacré. Nous ne pouvons pas faire revenir des choses que nous avons manqué de faire. Nous ne pouvons pas ramener les jours, les semaines, les années, les mois qui sont derrière nous. Nous ne pouvons pas encore les placer devant nous. Ils sont pour toujours passés. Chaque jour que nous avons vécu ne revient plus. Chaque occasion que nous n'avons pas rachetée, saisie, est passée pour toujours. Et quand nous pensons à cela, alors nous ne nous sentons pas bien. Comment est-ce que en ce jour-là, nous pourrons apparaître devant le Seigneur? Comment est-ce que nous nous tiendrons devant le Seigneur, lui qui a fait de grandes choses pour nous? Pour qui est-ce que nous avons vécu? Quel a été le contenu de notre vie de croyant? L'objectif, le sens de notre vie sur terre? Beaucoup de choses ne compteront plus. Une seule chose comptera. Ce sera ce que nous avons fait par amour à notre Seigneur qui nous a aimés en nous appelant à sortir. Ce qui s'est passé par amour pour lui. Et il disait qu'il a lu cette écriture et que aussi cette parole lui a touché le cœur. Le but de la prédication de l'évangile 1 Timothée 1, verset 5, c'est un amour venant d'un cœur pur. Bien-aimé, la rédemption est une œuvre d'amour de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, pour que quiconque qui croit à lui ne périsse pas, mais ait en lui la vie éternelle. La prédication de l'Évangile est apportée, est fondée dans l'amour de Dieu et est transmise dans ce même amour avec lequel Dieu nous a aimés en nous appelant à sortir. L'Évangile est prêché avec amour parce que nous le savons que c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu avec nous, créatures misérables qui sans espérance et sans Dieu étions dans ce monde, mais qui maintenant il a racheté, délivré et que nous avons la grâce de lui appartenir. Il nous a racheté à un grand prix, pas avec de l'or ou bien avec de l'argent, mais avec son précieux sang, son saint sang. Il a payé le prix pour nous à Golgotha. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire à ce qu'il a fait, de le croire. Et cette puissance de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, oui, il l'a laissé produire de son effet totalement. Alors que le frère Rousse lisait cette parole du triomphe de notre Dieu, mes pensées sont allées à ce que nous avons touché rapidement hier soir, alors que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, se préparait à sortir de l'Égypte et que les agneaux ont été immolés et qu'ils sont sortis et que le Seigneur allait devant eux. Ce psaume 68 se réfère à cela. Chant de triomphe, quand nous lisons le verset 8 ici, il est écrit, psaume 68, verset 8, « Ô Dieu, quand tu sortais à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant la face de Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant la face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie abondante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple qui t'appartient, tu le fortifias, ton héritage épuisé. Est-ce que ce n'est pas une parole merveilleuse? Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, mais pas seulement ça. Le ciel a laissé pleuvoir une pluie bienfaisante, puissante, ô Dieu. Quand l'exode a lieu avec le peuple de Dieu, quand l'exode de Dieu a lieu avec son peuple, alors ce n'est pas quelque chose qui a lieu sur terre seulement, alors le ciel et la terre sont en accord, sont en mouvement, sont ébranlés. Et alors, le ciel et la terre sont en accord et Dieu sur terre, n'est-ce pas, accomplit ce qu'il a promis et ne regarde pas seulement du ciel ce qui se passe sur terre et ne nous laisse pas comme ça à nous-mêmes abandonnés, mais il prend toute la responsabilité pour nous et marche devant nous. Tu fit tomber une pluie abondante, ô Dieu. Tu fortifias, le verset 10, il relit, ton héritage épuisé. Ça, c'est ce que Dieu fait parmi son peuple, qui est son héritage. Et même si nous sommes épuisés et que nous sommes fatigués et chargés et que nous venons sous l'écoute de la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu vivifie la parole que nous écoutons en nous, alors nous, les genoux se fortifient et nous sommes fortifiés, nous pouvons de nouveau continuer à marcher avec notre Dieu. Et au verset 11, il est écrit, ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Ça, ce sont des paroles merveilleuses que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparées pour les faibles en allemand. Ces choses ne sont pas écrites seulement pour remplir les pages de la Bible, mais c'est pour te consoler, toi et moi. Toute écriture a été inspirée, donnée de Dieu, par Dieu, et est nécessaire pour enseigner, pour corriger, pour édifier. Et si il est écrit ici, ton peuple, verset 11, établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les faibles. Les faibles sont épuisés pour s'établir. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Ils étaient dépendants du secours de Dieu. Et Dieu leur a accordé le secours par sa grâce. Après, il est écrit au verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Là où Dieu a son peuple, là où son peuple est dans sa volonté, là où les siens croient sa parole, là ce qui est impossible devient possible, car Dieu est capable de faire toutes choses. Qu'est-ce qui existerait que Dieu ne pourrait pas faire? Et alors, je dois encore penser à ces deux, lire encore ces deux versets qui ont été lus avant la parole d'introduction. Le verset 18 et 19. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as émené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Oui, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Nous remarquons qu'au milieu de ce que Dieu faisait pour Israël, déjà l'œuvre de la rédemption pour le Nouveau Testament, pour la Nouvelle Alliance, est fondée, est énumérée. Vous avez seulement besoin de lire Éphésiens 4, le verset 8. Et là, il est écrit aussi, tu es monté dans les hauteurs. Et il est monté dans les hauteurs et il a émené des captifs et il a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, verset 8. Ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament avait déjà une signification dans l'histoire du salut pour le Nouveau Testament. Et le peuple d'Israël était déjà le peuple élu de Dieu. Et ainsi, pour les élus du Nouveau Testament, ils sont une image, un symbole. Et aussi, dans le Nouveau Testament, il leur accorde des promesses et il les accomplit comme il les a accomplis avec Israël. Alors, qui peut s'étonner quand il est écrit Loué soit le Seigneur chaque jour, verset 20. Notre Dieu qui est notre secours nous porte. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Si nous n'étions pas ici, si Dieu ne nous avait pas aidés et supportés et soutenus et portés, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Mais le Dieu que nous a rachetés, il nous fortifie. Quand nous sommes épuisés, il nous accorde de nouvelles forces. Il nous délivre, il nous secourt et il achèvera par sa grâce son œuvre. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, être ceux qui vivront cet achèvement de l'œuvre de Dieu. Aussi, ce verset, on peut encore le mentionner. Ici, il est dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Il n'a pas seulement la garantie. Il n'a pas seulement donné la garantie pour la mort. Il a vaincu la mort. Il n'a pas seulement garanti de la mort. Il a vaincu l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité. Chacun peut donner une garantie. Mais d'exécuter la chose, de manifester la chose. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Il ne donne pas seulement une garantie. Il est la garantie. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Il accomplit tout ce qui lui plaît. Il fait tout ce qui lui plaît. Bien-aimé cœur, et que cela ne te fortifie pas dans la foi de savoir que Dieu a pris la responsabilité pour nous et qu'il prend soin de nous du premier jusqu'au dernier jour. Si nous étions livrés à nous-mêmes, oh, les choses iraient mal pour nous et nous serons livrés à l'abandon. Mais loué soit notre Dieu qui est devenu notre secours, pas seulement dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, le triomphe du Dieu Tout-Puissant est parmi ceux pour lesquels les yeux sont ouverts. J'aimerais lire dans Luc chapitre 4, plusieurs écritures, Luc 4. Ici, il est écrit au verset 22, verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité divine. Ensuite, le verset 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est que cela pour une parole puissante en allemand? Avec autorité et puissance, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Aujourd'hui, pour moi, il s'agit de cette expression. Qu'est-ce que c'est cela pour une parole d'autorité? Mais bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, le verset 36, est capable de prononcer une parole d'autorité. Et cette parole d'autorité, chaque puissance a à se soumettre et chaque autorité a à se soumettre et à obéir. Il n'y a pas d'autorité qui pourrait se tenir devant l'autorité et la parole d'autorité de notre Dieu. Ici, c'était le Seigneur qui avait délivré quelqu'un qui était possédé, qu'avait été déchiré à terre et jeté à terre. Et les gens voyaient que la parole de notre Seigneur, n'est-ce pas, a apporté à cet homme la délivrance et le salut. Pas de condamnation, mais secours dans son problème, dans ses difficultés. Sa parole a produit un secours dans sa misère. Et j'ose dire que la parole d'autorité de notre Dieu, encore aujourd'hui, dans l'Église du Dieu vivant, est encore là. Ce n'est pas un homme qui prononce une parole d'autorité et qui aurait une parole d'autorité. Non, le Dieu Tout-Puissant a une parole d'autorité et a prononcé sa parole d'autorité. Et cette parole-là, il nous l'a transmise pour que nous puissions la porter et la prêcher. Et ce n'est pas notre parole que nous transmettons, que nous portons aux autres, mais c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Comme c'est écrit dans Hébreux, que par lui, il a aussi, par sa parole créatrice, il porte tout l'univers. C'est comme ça que c'est écrit en allemand, dans Hébreux chapitre 1, verset 3, 2. Au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il porte, en allemand, il porte tout l'univers par sa parole puissante. Par la même parole d'autorité, par la même parole puissante, par laquelle tout l'univers a été créé. Comme c'est écrit à la fin du verset 2, c'est par la même parole puissante que tout est porté, est soutenu. Et nous aussi, nous sommes soutenus et portés par la parole puissante de Dieu. Et nous devons, dans ces derniers jours, comprendre cela, que ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais que c'est la parole de Dieu que nous avons écoutée et que nous avons reçue. Et que dans les paroles de Dieu sont contenues la puissance de Dieu et pour appeler à l'existence, pour créer ce que Dieu a prononcé dans sa parole. Pour l'appeler à l'existence en nous. Alors que Dieu avait dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors qu'il disait que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et en un seul lieu et que le sexe paraisse. Et que le sec paraisse, au verset 9, Genèse 1, cela fut ainsi. Alors qu'il disait que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et tout cela. Et cela fut ainsi. Pas une parole de Dieu est restée sans effet, mais chaque parole de Dieu a produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Est-ce qu'aujourd'hui la parole, ça devrait être différent? Est-ce que la parole de la promesse pour ce temps, parmi le peuple de Dieu, ne devrait pas produire l'effet et exécuter les volontés de Dieu pour lesquelles sa parole a été envoyée et prêchée? Sûrement, certainement, il y a un reste qui trouve grâce devant Dieu. Des hommes qui ne débat pas sur ce que Dieu a dit et a promis, mais des gens qui dans leur cœur croient et gardent le pas avec le Seigneur. Il y a un, et ils deviennent un avec lui dans sa parole et dans son esprit et les uns avec les autres. Au verset 36 de Luc 4, tous furent saisis de stupeur et ils disaient, quel que c'est cela comme parole puissante. C'était la parole puissante de celui qui avait dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Mais bien aimé, nous nous tenons et nous ne parlons pas dans notre propre dans nos propres affaires ou bien dans notre propre œuvre ou chose, mais nous nous trouvons dans le dans le royaume de Dieu, dans lequel seulement sa parole de puissance à la première place. Et c'est en elle et par elle que toutes choses auront lieu. Nous ne bâtissons pas notre propre royaume dans le royaume de Dieu, car cela a lieu assez partout, que chacun est en train de bâtir son petit royaume à l'intérieur du royaume de Dieu, et pour rassembler autour de lui, autour de soi, des frères et des sœurs pour devenir leur chef. Non, dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul qui est le chef, et ça, c'est le roi dans ce royaume. Et son nom, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous tous, nous devenons une partie de ce royaume. Et nous nous laissons introduire dans ce royaume par Dieu lui-même et dans ce qu'il fait. Ici, il est écrit au verset 37 de Luc 4, « Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. » Vous savez que justement, dans le même chapitre, notre Seigneur du prophète Ésaïe, le chapitre 61, avait lu et avait encore prêché aux hommes pour publier une année de grâce du Seigneur à la fin du verset 19 de Luc 4. Et ensuite, il est écrit, ensuite il roula ce livre au verset 20, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli ici parmi vous. Nous vivons dans un temps dans lequel la parole de Dieu parmi son peuple s'est accomplie. Personne n'a plus besoin d'ajouter quelque chose à cela. Personne a besoin de marcher devant le Seigneur, de courir devant lui. Tous, il nous est demandé de le suivre. Il n'a personne qui l'aurait appelé et à qui il aurait dit, « Va maintenant, marche maintenant devant moi. » Il disait que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Beaucoup veulent suivre le Seigneur, veulent marcher devant le Seigneur, se dépêcher et courir devant lui. Ils veulent faire ce qui n'est même pas le temps de faire, les choses pour lesquelles le temps n'est pas encore arrivé. Et mes bien-aimés, nous voulons faire ce que Dieu s'est proposé de faire, ou bien alors, est-ce que nous sommes ceux qui veulent prendre part plutôt à ce que Dieu fera parmi son peuple. Le problème dans ce temps consiste à ce que il y en a trop qui veulent faire quelque chose et aussi qui font quelque chose. Et ils sont pleins de zèle de toutes leurs forces et dans tout leur temps. Et ils sont un obstacle pour Dieu. Et ils sont un obstacle. Et ils sont en chemin à Dieu pour l'œuvre et pour ce que le Seigneur fait dans ce temps. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, comme c'est écrit dans le psaume 123. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Dieu fait l'histoire du salut parmi son peuple et c'est lui qui prononce sa parole et peut dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Nous croyons que Dieu a parlé et qu'il y a des hommes qui sont là, qui peuvent être patients et qui portent ces promesses divines dans leur cœur, qui les repassent dans leur cœur, dans un bon cœur et un cœur fécond, en sachant que Dieu, en son temps, les accomplira. Est-ce qu'il y a eu un seul homme qui aurait pu accomplir une promesse de Dieu? Les Saintes Écritures disent que quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Le temps doit être arrivé. Quand le temps fut arrivé pour Israël, alors Dieu a envoyé un Moïse pour faire sortir le peuple. C'était l'heure de Dieu. Et c'est peut-être raison qu'il y a eu un triomphe de Dieu, un triomphe de notre Dieu, parce que l'heure de Dieu avait frappé et Dieu marchait devant son peuple à leur tête. Mais bien, mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ville cure, il n'y a pas de propre œuvre, propre programme, propre plan, pour penser. Dans le royaume de Dieu, nous devons être simplement une partie du plan de Dieu, chacun individuellement, qui s'accomplit. Jean était un homme envoyé de Dieu. Par lui, Dieu a fait l'histoire. Ensuite, il a présenté le Seigneur, le Sauveur. C'était la continuité de l'histoire du salut. Et ensuite, les hommes que le Seigneur avait appelés ont apparu. Et ainsi, dans son royaume, ils ont été placés par lui avec l'autorisation et le devoir dans son royaume de faire sous la conduite du Saint-Esprit ce qu'il leur avait ordonné de faire. Vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 1. Vous pouvez le lire. Là, il est dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donner ses ordres par le Saint-Esprit. Peut-être que je vais vous lire Actes des Apôtres, chapitre 1. Au verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis après qu'il eut, jusqu'au jour où il fut enlevé. Quoiqu'il était ici, encore corporellement, ici sur cette terre parmi eux, ici il est écrit qu'il l'a donné aux apôtres. Les apôtres qu'il avait choisis, il leur a donné ses ordres, et cela par le Saint-Esprit. Déjà, il y avait la révélation, déjà il y avait l'inspiration, quoique le Seigneur était encore corporellement là, il y avait l'inspiration, quoique la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, il y avait l'inspiration par le Saint-Esprit, la clarté sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais bien, frères et sœurs, l'inspiration du Saint-Esprit est vieille comme l'histoire de l'humanité. Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden et par les prophètes. Il a parlé dans le jardin d'Éden et par tous les prophètes. Et Dieu parle encore jusqu'à dans nos jours. Mais tout ce qu'il dit est toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Dieu ne va jamais avoir une fantaisie. Dieu est lui-même une réalité et Dieu ne traite qu'avec la réalité. Tout le reste, ce sont que des imaginations d'hommes que le vent fera passer et apportera une déception à ceux qui ont suivi et cru ces choses. Paul, ce grand homme de Dieu, il dit ici aux Galatiens une parole très particulière. Je vous déclare, Galates 1, 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi, prêché par moi, n'est pas de l'homme. Aussi cette phrase dans Galates 1, le verset 11, n'est pas à mépriser et n'est pas à détourner. Combien d'hommes sortent, voyagent et prêchent la parole de Dieu selon l'homme, d'une manière humaine. Mais Dieu, lui, il avait ses prophètes et ses apôtres qu'il a envoyés matin et soir. Il veillait sur sa parole pour que sa parole, dans la pureté et la sainteté, pour l'Église, soit conservée dans sa forme originale, pure et sainte. Car c'est ainsi que c'est écrit. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Pourquoi? Si nous écoutons la parole du Seigneur, alors pour nous, c'est comme un bain. Et c'est ainsi que les Saintes Écritures aussi nomment cela. Vous êtes lavés dans le bain de la parole. Mais si la prédication n'est pas pure, comment est-ce qu'un bain soit possible? Et comment est-ce que les hommes peuvent être lavés dans le bain de la parole de Dieu par une prédication qui est mélangée, qui est impure et souillée? Parce qu'il y a des pensées humaines. Mais bien, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, dans notre temps, a un évangile plein, pur, saint, qu'il a laissé prêcher. C'est-à-dire, la vieille parole de Dieu, il a replacé nouvellement sur le chandelier. Sans que des hommes, dans le moindre des choses, puissent ajouter ou retrancher quelque chose et infiltrer leurs pensées. Si nous avons compris réellement cela, où est-ce que notre purification et notre sanctification et notre rédemption et notre commencement et notre fin est? Alors nous allons entièrement mettre notre confiance dans le Seigneur, car c'est en lui que tout est et d'où que tout vient. Il y a encore d'autres paroles que je voudrais lire de Philippiens, le chapitre 1. À partir du verset 3, Philippiens, chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Philippiens 1, verset 5 maintenant. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En allemand, l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Mais bien, mes frères et sœurs, ça c'est une parole sainte et précieuse de Dieu. notre Seigneur a appelé des hommes qui ne sont pas croyants depuis trois ans, mais celui qui vraiment a été saisi une fois pour toutes par le Seigneur, il ne peut plus le laisser. Il est saisi pour toujours. C'est une chose qui a eu lieu dans sa vie et dans notre vie pour toujours. Parfois, on rencontre des hommes qui sont croyants et subitement, ils sont incrédules, ils ne sont plus croyants. De nouveau, ils sont encore croyants et de nouveau, encore, ils ne peuvent plus croire. Mais bien-aimé, celui qui a été saisi par Dieu et qui a été ravi et qui est né dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, il reste dans ce royaume de Dieu-là. Il ne peut plus en sortir. Ce n'est pas possible. Il est une partie du royaume de Dieu. Et Paul, n'est-ce pas, l'exprime ici et dit qu'il a cette persuasion-là. Parce que depuis le premier jour jusqu'à maintenant, ils ont pris part à l'évangile dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, pas pour 3 heures ou bien pour 2 jours, tous ceux qui vraiment portent en eux le royaume de Dieu, en qui le royaume de Dieu est et qui eux-mêmes sont dans le royaume de Dieu, jamais ils pourront sortir à l'extérieur de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront jamais se tenir à l'extérieur de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Non. Mais ils vont s'identifier dans tout ce qu'ils font au royaume de Dieu. Et ils seront et ils resteront une partie du royaume de Dieu. Et avec tout leur cœur, ils prendront part et seront une partie de l'œuvre de Dieu dans ce temps. Mais bien aimé, c'est certain, il n'y a rien de nouveau que je dis ici. Mais nous devons toujours de nouveau nous rappeler ces choses. Il n'y a pas eu de temps dans toute l'histoire de l'humanité dans lequel le dessein du salut de notre Dieu dans sa totalité a été révélé et prêché comme dans notre temps, dans cette génération. Des hommes de Dieu ont vécu dans les années passées, c'était des grands prophètes, etc. Et ils ont sondé les Écritures pour savoir dans quel temps l'Esprit de Dieu, de quel temps l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, parlait de ces choses, pour quel temps. Ils ont aspiré vivre ces choses quand elles s'accompliraient, être sur terre. Mais malgré tout, les Saintes Écritures disent qu'ils n'ont pas vu ces choses dans leur accomplissement. Et d'Abraham, il est écrit que de loin, n'est-ce pas, il a salué les promesses, mais que malgré tout, il a décédé. Mais il cherchait de son vivant, n'est-ce pas, la ville dont Dieu était l'architecte. Il était un pèlerin sur cette terre et cherchait la cité céleste parce que Dieu avait mis sa semence en lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se passer avec nous? Nous qui avons reçu la sainte et précieuse parole de Dieu et qui l'avons reçue dans notre cœur, nous aussi, elle nous détache des choses de ce monde et nous aspire à entrer dans cette maison céleste que Dieu a préparée pour nous, que nous puissions appartenir à ceux qui, avec joie, ont reçu la parole de Dieu, pas seulement pour quelques temps, mais pour toujours et éternellement. Dieu ne fait pas de choses à moitié. Non, il fait une œuvre totale, entière. Et cela dans ta vie et dans ma vie. Ensuite, ici Paul nous dit ensuite encore dans Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça, c'est aussi une parole très sérieuse. Il dit ici que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Cette parole, cet homme de Dieu aurait pu ici l'exprimer ainsi, tel qu'autrefois il l'a exprimé. Et nous savons que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les paroles de Dieu jusqu'aux dernières paroles s'accompliront. Tout ce qui est exprimé, prononcé, va s'accomplir. Mais il faut que le temps arrive pour que ces paroles prononcées s'accomplissent. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ça, moi, je dois me laisser le dire. Et nous tous. D'un autre côté, le verset 6, il a lu. Paul écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 28. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans les croyants. Galates 4, verset 19. C'est une différence. Est-ce que nous sommes inquiétés des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, ou bien alors nous sommes inquiétés des choses terrestres et que ce sont les choses terrestres qui nous affligent, qui nous inquiètent d'une manière qu'on n'a même pas le temps de nous inquiéter des choses de Dieu. Mais que Dieu puisse nous accorder sa grâce pour que nous puissions faire la différence des choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Souci que lui donnait l'Église. Si nous regardons avec les yeux humains et regardons aux choses, nous pourrions, avec une grande inquiétude, être chargés d'inquiétude. Comme le Seigneur est de souci, le dit dans Matthieu 13, alors les soucis de la vie, n'est-ce pas, étoufferont la semence et elle ne pourra pas produire de son fruit. Donc, nous voulons mettre nos soucis dans le Seigneur, nous décharger sur lui et lui faire confiance pour qu'il puisse, dans chaque circonstance et devant chaque problème, avec chaque personne, faire tout ce qui est bien pour nous. Peut-être que le Seigneur n'a encore pas pu faire plus, parce que nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes inquiétés et souciés. Et par cela, nous n'avons pas, n'est-ce pas, apporté notre confiance à Dieu, mais nous lui avons en fait retiré notre confiance et nous avons pris les choses entre nos mains. Nous voulons lui laisser son œuvre entre ses mains. Veut-on me donner des ordres sur l'œuvre de mes mains, comme c'est écrit dans Ésaïe 45, verset 11? Est-ce que l'œuvre de Dieu est mieux dans une autre main que dans la main du Seigneur lui-même? Il le dit lui-même dans Ésaïe 45, verset 11. Laissez mon œuvre entre mes mains. Je vais vous le dire. Que le Seigneur, par sa parole d'aujourd'hui, puisse produire en toi et en moi et en nous tous une nouvelle foi, une certitude, une assurance. Pas en nous-mêmes, nous pouvons nous oublier nous-mêmes. Mais la foi qui vient de la prédication, de ce qu'on entend, cette foi-là doit nous apporter en relation avec Dieu. La foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et nous fortifier dans la confiance en lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. D'actions de grâce devant Dieu. Pas seulement avec des prières et des supplications, avec des lamentations et des pleurs, mais des supplications liées à des actions de grâce. C'est des actions de grâce que la foi vient, survient. La foi ne survient pas par la supplication et par la prière, mais la foi survient dans notre cœur et la réponse de Dieu vient de l'action de grâce qu'on apporte et que cette prière et cette supplication puisse aboutir dans l'action de grâce avec Dieu, devant Dieu. Et si nous abondons ainsi de grâce et d'action de grâce et nous mettons ainsi notre confiance en Dieu, alors cela ne devrait pas être difficile pour nous de croire que Dieu a tout pouvoir au ciel et sur terre et qu'un jour, nous pourrons dire qu'est-ce que c'est cela pour une parole puissante comme ils l'ont dit dans Luc 4. Qu'est-ce que c'est comme parole? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et lui qui a prononcé la parole puissante et celui qui a produit l'effet de ces choses, de tout notre cœur, nous lui apporterons la reconnaissance que nous lui devons. L'action de grâce ici, c'est une condition de ce qui est écrit au verset 7. Vous voyez, le verset 6 est la condition pour expérimenter le verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Ou bien, une autre traduction, gouvernera vos pensées en Jésus-Christ. Pas tôt ou tard, mais quand nous lions nos prières et nos supplications à une action de grâce devant la face de Dieu, que nous puissions ainsi, toujours nouvellement et toujours nouveau, lui exprimer ainsi notre confiance et dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Je te remercie de ce que tu m'as déjà répondu et que j'ai obtenu. Mes bien, frères et sœurs, nous croyons à la prédestination et parfois cela a des conséquences telles qu'on accepte parfois des choses telles qu'elles sont et on pense que Dieu l'a prédestiné. Laissez-moi aujourd'hui dire cela avec quelques phrases en cet endroit, très clairement la chose suivante. La prédestination est une prédestination pour le salut de l'âme, c'est-à-dire que nous sommes déterminés à être des fils et des filles de Dieu avant même la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à l'être. Mais cet homme que le Seigneur Jésus-Christ a guéri dans Luc 4 n'avait pas été déterminé à être malade. Prédestiné à être malade. La fille d'Abraham qui marchait courbée 18 ans et qui avait été, n'est-ce pas, affligée par Satan. Elle n'avait pas été prédestinée à être affligée et rendue esclave par Satan durant toutes ces années. Une telle prédestination n'existe pas. Seulement une prédestination au salut, au rachat, que nous devenions des fils et des filles de Dieu. D'un autre côté, sinon, nous puissions dire, bon, Seigneur, si tu as déterminé cela ainsi pour moi, que je sois malade, ainsi, alors nous voulons l'accepter. Non. Chaque homme qui a une rencontre avec notre Sauveur, autrefois, qui avait une rencontre, sa vie a été transformée. Ceux qui étaient possédés ont été délivrés. Ceux qui étaient malades ont été guéris. Ceux qui étaient pécheurs ont été sauvés. Et perdus ont été sauvés. Il n'a pas dit aux uns, bon, tu as été déterminé à continuer à être malade comme ça. Pas à un seul. Au contraire, dans le même évangile de Luc, au chapitre 4 que nous avons lu, il est écrit au verset 40, Où est-ce que nous avons lu? Luc, chapitre 4. Il est écrit: après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies. Lisons ici dans Luc 4, à partir du verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais bien-aimés, si déjà nous croyons à la prédestination, alors s'il vous plaît, de la bonne manière, que nous soyons, nous avons été prédestinés à être des fils et des filles de Dieu, et que nos droits d'être fils et filles de Dieu, nous les revendiquons, nous les recevons. Prenons un exemple au peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance de Dieu sur cette terre. Devant qui est-ce qu'ils avaient peur? À quel ordre ils obéissent? Ce grand homme disait: je me prosterne devant aucun président et non plus devant celui des États-Unis. Je me prosterne seulement devant le Dieu Tout-Puissant. Ça, ce sont des hommes qui ont revendiqué et ont pris en possession leur pays de la promesse terrestre. Et ils vont de l'avant et ils savent que Dieu nous l'a promis. Et nous le revendiquons. Et vous savez ce que la Bible dit? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pas tout lieu que tu observes, que tu regardes de loin, tout lieu duquel tu rêves. Non, mais tout lieu que foulera dans la foi la plante de votre pied, dans la foi peut fouler de ton pied. C'est cela que je t'ai donné. Mais bien aimé, nous devons croire que le pays les appartenait. Mais c'était seulement le lieu qu'il foulait. Mais bien, frères et sœurs, nous devons revendiquer tout ce qu'il a promis. Et ne pas seulement le considérer. Mais c'est important que nous puissions savoir ces choses et ne pas comme ça regarder en arrière et dire: oh bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Hein, bon, le pays nous appartient. Bon, peut-être que non. La volonté de Dieu, elle a eu lieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Elle a été manifestée et exécutée. Les malades ont été guéris. Ceux qui étaient perdus ont été sauvés de son vivant sur terre. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Et la volonté de Dieu pour son peuple dans ce temps consiste à ce que nous puissions prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant par les promesses et par la parole révélée pour ce temps. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Et nous pouvons, sans oui ou mais, et nous pourrons témoigner que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, et que par lui, il s'est révélé et il a parlé. Et la parole de notre Dieu demeure une parole puissante, même si elle est prononcée par les lèvres d'un prophète ou bien alors d'un apôtre, même si elle est venue des lèvres d'un prophète ou bien d'un apôtre, elle reste la parole puissante de Dieu dans toute éternité. Et avec cela, une parole de puissance, d'autorité, de création, une parole dans laquelle une puissance de création et de rédemption, de puissance de Dieu est contenue. Tout ce que Dieu prononce s'accomplit, arrive. Jésus-Christ, notre Seigneur, disait autrefois: aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, devant vous, la même chose, nous pouvons dire dans plusieurs écritures et dans plusieurs cas. Est-ce que ce que Dieu, aujourd'hui, dans cette heure de ce matin, ce que Dieu nous a dit? Est-ce que nous l'avons compris? Ou bien l'avons entendu seulement de nos oreilles? Ou bien est-ce que nous avons laissé Dieu nous parler dans notre cœur? Mais bien aimé, cette question est justifiée. Car ce ne sont pas tous qui écoutent, qui perçoivent la parole, la laissent pénétrer leur cœur. Il y en a qui l'écoutent, qui l'entendent. Il y en a qui ont leur propre pensée saoule. Pendant que Dieu leur parle, ils ont leur propre pensée et ils ne comprennent pas. Ou bien alors, ils ne perçoivent pas que c'est Dieu qui... Ce que Dieu veut leur dire, ils ne le perçoivent pas. Parce qu'ils ont leur propre pensée sous le coup de la parole. Que nous puissions mettre nos propres pensées de côté et dire, Seigneur, parle avec moi. Prononce une parole puissante parmi ton peuple. Il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Vous savez très exactement que si vous lisez Luc chapitre 4, alors que le Seigneur avait commencé son ministère, et déjà tout de suite pendant l'exécution, au commencement de son ministère, il est écrit, qui est celui qui prononce, ou bien qui a prononcé une telle parole puissante? Quelle est cette parole? À la fin de son ministère, il est encore le même qui prononce la parole puissante. Et toutes les autres paroles passeront. Mais les paroles du Seigneur demeurent éternellement. Et il est écrit que ça, c'est la parole que nous vous avons prêchée en tant qu'évangile. 1 Pierre chapitre 1, verset 24. Il n'y a pas d'autre parole en dehors de cette parole précieuse et puissante de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir tous de la plénitude de sa grâce. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce cantique, ou bien alors ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes et dans la prière, nous persévérons devant Dieu et nous nous examinons nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous tenons devant Dieu? Dans quel état nous sommes? Est-ce que de tout notre cœur, nous disons amen à sa parole? Nous l'acceptons totalement, pas seulement dans les points qui nous arrangent, qui sont cousus selon notre mesure, mais chaque parole, la croire, qui est sortie de la bouche de Dieu, la croire, toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Alors que nous nous examinons ici devant la face de Dieu et que nous le laissons encore continuer à parler à notre cœur et agir dans notre cœur par sa parole. Est-ce que nous ne voulons pas ensemble donner un vœu au Seigneur et lui dire, ô Dieu, faire un vœu, Seigneur, avec ton secours, je te serai fidèle jusqu'à la fin. Que Dieu dans notre cœur, aujourd'hui, puisse avoir placé une décision, cette décision-là, de lui être fidèle. Il ne s'agit plus de ceci ou de cela, en savoir ou bien d'enrichir notre intellect ou bien notre savoir. Aujourd'hui, il s'agit de la parole révélée de Dieu. Il s'agit de personnes qui ne prêtent plus l'oreille à quelque chose d'autre en dehors seulement de la parole de Dieu originale telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Et ils seront ceux-là qui, n'est-ce pas, verront le triomphe du Dieu Tout-Puissant et qui le vivront. Encore plus grand que le triomphe d'autrefois du temps de l'Exode, alors que notre Seigneur aussi était entré à Jérusalem, il y avait, alors qu'ils ont chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna soit le fils, Hosanna au fils de David qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. C'était un triomphe. Autrefois, des branches de palmes ont été jetées sur le sentier, sur le chemin. Il y aura une foule, un troupeau avec des branches de palmes, n'est-ce pas, dans leurs mains, devant le trône de Dieu, lavé dans le sang de l'agneau. Il y aura un troupeau de vainqueurs qui n'a pas regardé à droite et à gauche, prêté l'oreille à droite et à gauche, qui ont fixé le regard devant, au Seigneur, et seulement au Seigneur qui a prononcé une parole puissante dans notre temps et qui a, avec autorité et puissance, ordonné tout et tout lui est soumis. Nous voulons ensemble élever nos cœurs. Que nous puissions le faire maintenant. Nous voulons tous ensemble élever nos voix. Prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, toi qui à la fin du temps de la grâce nous laisses vivre. Tu as ouvert nos yeux et tu les as oints. Tu as ouvert nos cœurs pour qu'ils puissent croire. Seigneur, accorde ta grâce pour que nous puissions dans la foi t'honorer et que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions te faire confiance car tu es capable de faire tout. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, tu peux sauver, tu peux guérir, tu peux bénir, tu peux délivrer, tu peux te révéler à chacun individuellement qui de tout son cœur croit et qui vient à toi. Ô Seigneur, que tu puisses détendre ton bras et que des miracles et des prodiges et des signes aient lieu par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Seigneur, prononce encore aujourd'hui une parole de puissance et d'autorité et ordonne. Je te remercie, c'est là. Pour cela, et je te loue, Seigneur Dieu, nous le vivrons, nous le verrons, que nous sommes une église parole, une épouse parole. Oui, un troupeau par lequel ta parole deviendra une réalité devant nos yeux. Oui, nous serons la confirmation de ce que nous croyons dans notre cœur et nous allons prononcer de notre bouche. Avec nos propres yeux, nous le verrons s'accomplir. Loué et exalté soit ton merveilleux nom et ton nom glorieux. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Père céleste, encore une fois, je te demande de tout mon cœur, enseigne-nous à, dans la foi, écouter ta parole. Enseigne-nous, apprends-nous à prier et à supplier. Apprends-nous à te rendre grâce, à t'apporter des actions de grâce et dans la foi ainsi t'honorer. Seigneur, tu as ouvert le rocher pour qu'il puisse faire jaillir de l'eau pour ton peuple. Tu as calmé la tempête et les vagues. Tu as distribué, tu as multiplié le pain. Seigneur, si nous comptions, si nous voulons énumérer les miracles et les merveilles que tu as fait au Seigneur, et tu nous dis dans ta parole, je suis Dieu et je ne change pas. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Bien-aimé Seigneur, crée maintenant une atmosphère d'amour, de la foi, une atmosphère de l'amour et de la foi. Seigneur, par ta parole, produis ces choses. Agis par ton sang, par ton esprit, dans toute notre vie, nos domaines, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Agis par ton esprit, par ta parole, par ton sang. Tu as pris soin pour tout. Honneur et adoration te soient apportés à ton merveilleux et merveilleux, glorieux nom de Jésus. Je te remercie car tu as parlé avec nous. Et je sais que nous l'avons reçu, accepté. Et tu nous révéleras ta parole. Et tu la vivifies en nous et tu continueras à être avec nous, loué et exalté. Sois ton saint nom. Alléluia. Amen.